Bienvenue dans le podcast des Devo Team Revolve, le podcast qui questionne notre rapport à la technologie. Tout d'abord, bonjour Alice et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce temps d'échange autour du Créa Mont Blanc. Pour rappel, le podcast d'aujourd'hui s'inscrit dans Gravity qui se veut être un lieu de réflexion autour des enjeux majeurs de notre société, avec pour axe central la technologie. Nous luttons contre les raccourcis intellectuels, proposons des alternatives, challengeons nos pratiques et cherchons à provoquer une réaction. En ce sens, nous entreprenons et révélons les singularités. Donc bonjour Alice.
Bonjour Eva.
Et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce temps d'échange autour du Créa Mont Blanc. Donc dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter et présenter le Créa Mont Blanc s'il te plaît ?
Oui, bien sûr. Donc Alice de Chili, je suis chargée de développement au Créa Mont Blanc. Donc le Créa Mont Blanc, c'est le centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude. Donc on est une association, loi 1901, une ONG scientifique basée à Chamonix-Mont-Blanc, en Haute-Savoie, déjà depuis 26 ans, où on étudie les écosystèmes alpins, donc avec pour objectif principal de faire de la recherche scientifique, notamment sur l'impact du changement climatique sur la biodiversité alpine, avec la double mission de diffuser aussi ces connaissances au grand public, décideurs et citoyens.
Eh bien, c'est un vaste sujet, j'ai hâte de faire partager tout cela à nos auditeurs. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus amplement du coup de l'histoire du Créa Mont Blanc et puis nous parler un peu du coup de ses objectifs, ses résultats, ses projets, ses expertises, voilà, faire un petit tour d'horizon.
Oui, le Créa Mont Blanc, donc comme je disais, il a été fondé il y a aujourd'hui 26 ans par Anne de Lestrade qui faisait des recherches notamment elle sur le chocard à bec jaune, un oiseau donc emblématique de nos montagnes, et elle a décidé de créer ce centre de recherche qui est un petit peu assez innovant, voire un ovni un peu dans le monde de la recherche, parce que c'est pas un laboratoire classique comme les autres, parce qu'il y a vraiment cette volonté de diffuser, de vulgariser les contenus scientifiques au plus grand nombre, et de faire de la recherche aussi, non pas en laboratoire, mais sur le terrain en fait, dans nos montagnes, dans notre massif, qui est un extraordinaire laboratoire à ciel ouvert. Au massif du Mont-Blanc, on peut imaginer tous ces microclimats avec cet étagement d'altitude de 600 à 4810 mètres. C'est un lieu de travail assez extraordinaire. Donc, comme je disais, là, une des premières parties, c'est la recherche en écologie alpine. Par exemple, on termine un projet sur deux espèces emblématiques qui sont le lièvre variable qui change de couleur, hiver-été, et le lagopède alpin. C'est des espèces... on appelle reliques glaciaires parce qu'elles sont héritières de la dernière glaciation et elles sont très adaptées à des conditions de vie en haute montagne, donc elles sont très vulnérables face au changement climatique. Et on continue nos recherches, ce qu'on appelle dans une approche écosystémique, c'est-à-dire on ne va pas étudier une espèce en particulier, mais vraiment l'interaction entre différents milieux, entre différentes espèces de faune sauvage, différents milieux. Et là, sur nos projets prochain projet, notamment sur les herbivores, les interactions entre la faune sauvage, le pastoralisme, et où on ajoute aussi un petit peu les pressions aujourd'hui anthropiques, notamment récréatives en montagne, qui sont de plus en plus importantes sur nos massifs. Donc c'est vraiment un peu, on étudie l'interaction entre ces différents milieux.
Ok, et du coup un projet, le temps peut varier, ça peut durer plusieurs mois comme plusieurs années, ça va dépendre de plein de critères je suppose.
Oui, alors c'est vrai qu'en recherche, on est vraiment sur du temps long, parce que le temps de collecter de la donnée, de faire, c'est vraiment une approche assez spécifique. Par exemple, là, sur les derniers projets, c'est des projets de suivi qui durent 3 ans, donc on est vraiment sur du temps long. Savoir que nos recherches, on a notamment eu un prix Momentum for Change, on a été reconnu par les Nations Unies à la COP23, donc bon, c'était en 2017, mais pour notre action sur... le suivi du changement climatique en montagne et du rapport science-société en diffusant ces informations au plus grand nombre.
Oh, félicitations. Et justement, je me permets de rebondir par rapport à ce que tu dis. Donc, par rapport à la collecte des données, ce qui fait votre spécificité et ce qui est aussi poussé au partenariat, on pourra en parler aussi en parallèle, c'est du coup votre collecte de données. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet ?
Oui, c'est sûr que dans nos massifs, on a déjà des conditions d'accès qui sont difficiles. Du coup, oui, on a besoin effectivement de collecter beaucoup de données et de façon très précise. Et les conditions en montagne sont souvent difficiles d'accès, hein, notamment par la pente, l'altitude et également l'hiver avec la neige. Donc, on peut avoir besoin de collecter des données de température. Donc, on a installé des stations de température sur tout le massif qui permettent d'avoir des... Il y a 5 capteurs et on a des données toutes les 15 minutes, par exemple. Donc, on ne pourrait pas dépêcher une personne sur site. On a également, pour suivre les déplacements de la faune, on a ce qu'on appelle des pièges photos, des caméras trappes réparties sur l'ensemble du massif. On en a une cinquantaine, ce qui nous permet effectivement d'être... ça remplace une présence humaine sur place et on évite également comme ça de déranger la faune le moins possible. Donc ça, c'est des éléments qui font qu'on a besoin d'utiliser aussi la technologie dans nos recherches actuellement.
Oui, c'est ce que j'allais te demander. Comment vous faites, une fois que vous avez positionné du coup ces caméras et ces outils, comment vous faites pour récupérer la donnée ? Est-ce que c'est transféré par ordinateur ou est-ce qu'il y a des gens qui vont directement...
Après, on a besoin quand même de se déplacer sur les terrains pour collecter les données.
On ne peut pas y échapper.
Voilà,
quoi.
Ça c'est sûr, notamment les caméras trappes, il faut bien récolter la puce. Donc... Ensuite, on fait beaucoup surtout d'analyses statistiques. On a des chercheurs qui sont statisticiens. On travaille sur... d'ailleurs, Revol nous a aidé à travailler sur toute l'architecture des données. Et les chercheurs se servent de programmes informatiques pour traiter justement l'ensemble des données. Et toujours dans cet objectif de vulgariser et de pouvoir diffuser ces données, ces contenus, on travaille aussi sur la data visualisation. Notamment, on a tout un portail ressources développé qui s'appelle l'Atlas du Mont Blanc, où on a tous nos contenus et vraiment du design et des graphiques très visuels pour pouvoir comprendre assez rapidement les enjeux d'aujourd'hui.
Alors du coup, ça fait le parallèle avec justement la raison de notre podcast aujourd'hui, c'est que Devoteam Revolve est un partenaire du CREA Mont Blanc. Est-ce que tu peux nous en dire plus concernant ce partenariat, l'historique et qu'est-ce qui vous a poussé aussi à choisir cette technologie ?
Oui, effectivement. Donc, c'est un partenariat qu'on a déjà avec la Fondation Devoteam depuis 2018. Donc, ça commence à avoir un bel historique, une belle fidélité du partenariat qui nous soutient. Alors déjà, c'est forcément, de façon un peu évidente, c'est un partenariat financier. Donc, c'est un soutien, nous, en tant que statut associatif, c'est un soutien nécessaire à nos actions. Et on a surtout un mécénat de compétences, c'est-à-dire qu'on a des équipes de Revolve qui ont plus d'une centaine de jours qui sont dédiés au CREA Mont Blanc et qui nous aident justement à travailler sur. Ils ont fait on avait autrefois des données vraiment disparates dans des fichiers Excel, des choses comme ça. Donc on a vraiment passé une étape en faisant un gros travail sur l'architecture des données, en essayant d'harmoniser toutes nos données, tout en gardant en tête de maintenir un impact environnemental assez réduit le plus que possible. Donc, il nous accompagne sur tout cet aspect-là.
Et du coup, au niveau... tu évoquais le partenariat avec Devoteam Revolve. Et au niveau de l'écosystème du CREA Mont-Blanc, comment est-ce qu'on pose ? Il est assez particulier. On en parlait juste avant.
Oui, effectivement. Alors, sachant que on a une mission qui est très vaste, c'est-à-dire qu'on fait et de la recherche en écologie alpine... Donc là, on a beaucoup de partenaires scientifiques, avec des réseaux scientifiques un petit peu répartis dans les Alpes. On diffuse, donc on a aussi d'autres relais. Nos intentions, c'est de pouvoir diffuser auprès des décideurs, donc on va travailler aussi avec les collectivités locales. Et une autre mission, on n'en a pas parlé encore jusqu'à présent, du CREA, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les sciences participatives. C'est-à-dire que c'est les citoyens qui sont impliqués dans la recherche, dans tout le processus de recherche, en faisant notamment des observations, par exemple, de reconnaissance de la faune sauvage ou dans le suivi du développement des grenouilles dans le massif du Mont-Blanc, où on a également, justement, toutes nos caméras trappes qui sont réparties sur le massif. On peut avoir là, on collecte des images de faune et on a tout un programme qui s'appelle Wild Mont-Blanc, où on fait appel à des milliers de volontaires observateurs qui peuvent identifier ces espèces en ligne. C'est assez addictif pour ceux qui veulent essayer.
Oui, on mettra le lien en description. J'ai déjà essayé une fois, c'est marrant. En fait, on fait le travail d'une IA. Ou un peu comme un CAPTCHA où un clic sur les différents passages piétons, puis tu cliques. Tu sais, cliques sur les grenouilles et tout. C'est assez sympa et comme tu dis, c'est assez ludique. Et du coup, ça m'amène à cette question. Est-ce que la science participative, ça a toujours été quelque chose qui a été mise en place au CREA ou c'est quelque chose qui est venu avec le temps, justement, la mise en place de cette science participative, due notamment au fait du nombre d'images grandissant, le fait que le traitement de la donnée, c'est assez chronophage malgré tout, donc le fait de demander aux citoyens, aux citoyennes de participer, ça peut aussi enlever une certaine tâche.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est quasiment depuis le début, parce que notre fondatrice, la Anne, avait toujours déjà cette un peu idée en tête d'impliquer le plus grand nombre. Dès le début, on a un programme de science participative de suivi de phénologie d'arbres, c'est-à-dire qui s'appelle Phénoclim, qui est depuis 2004. Donc, on va bientôt fêter les 20 ans de ce programme-là. Donc, ça a vraiment toujours été un peu l'ADN du CREA Mont Blanc, avec forcément la nécessité de récolter beaucoup de données. C'est-à-dire, même pour Wild Mont Blanc, par exemple, je crois qu'on a, depuis, ça fait déjà 3 saisons, on a déjà eu 12 000 volontaires, je crois, qui ont participé, par exemple.
C'est
donc, c'est énorme. Et Phénoclim, les gens, donc, suivent l'arrivée du printemps, par exemple, sur certaines espèces d'arbres. Et pareil, on a des milliers d'observations par an. Donc ces programmes-là nous permettent de collecter des données qu'on ne pourrait pas collecter juste nous avec quelques chercheurs. Donc il y a cet aspect quantité qui est important. Et nous, on a aussi une volonté, via la science participative, d'impliquer des observateurs bénévoles, de pouvoir leur permettre d'aller sur le terrain quand c'est des observations sur le terrain et de se reconnecter à la nature. Et même via Wild Mont Blanc, finalement, même si c'est la nature virtuelle, ça permet quand même une certaine éducation, sensibilisation aux espèces de montagne et de se reconnecter de façon virtuelle quand même aux vivants qui nous entourent.
Oui, tout à fait. Il y a quand même aussi, comme tu l'as évoqué, une sacrée partie de sensibilisation, justement. Est-ce que du coup, au-delà de la science participative, qui est déjà un sacré pan, vous faites des actions de sensibilisation? Et notamment le mécénat de compétences, je sais que chez Revol, le fait de placer des consultants chez le CREA Mont Blanc, comme tu l'as évoqué, il y a 100 jours par an qui sont dédiés au CREA Mont Blanc, c'est quand même assez conséquent. Et justement, qui amènent leur expertise sur un contexte qui est, du coup, on peut se le dire, un peu contre-intuitif parfois. Et ça m'amènera à une autre question que je te poserai après, je ne vais pas...
oui, je pense que ce n'est pas forcément la mission première du CREA de sensibiliser, mais... Effectivement, le fait de diffuser et vulgariser nos contenus scientifiques, rien qu'avec l'Atlas du Mont-Blanc, hein, qui est vraiment un portail ressources ou qui est à destination du grand public, donc des décideurs qui peuvent prendre du contenu pour prendre des décisions derrière de préservation ou de protection, ou même des socioprofessionnels de la montagne pour pouvoir, eux, aussi utiliser dans leurs actions de pédagogie. Et on fait, bien sûr, aussi des conférences. Par exemple, on a des conférences mensuelles à Chamonix, à l'Observatoire. On a également, on imprime des petits livrets avec un CREA Mont Blanc édition. On a nos petits livrets sur le changement climatique en montagne ou l'histoire scientifique ou dernièrement les espèces blanches. Donc on a vraiment cette force en tout cas de pouvoir sensibiliser et rendre accessibles des contenus scientifiques.
Oui, c'est hyper important et c'est vraiment fer de lance, je pense, à tous ces sujets qui me touchent, donc à la biodiversité, aux écosystèmes. Et donc du coup, ça m'emmène aussi à cette question... qui est comment on passe du fichier Excel en fait à AWS. Comment ça se passe ce processus de se dire bon, on va peut-être passer justement à un niveau supérieur et comment ça se passe?
Oui, bah là je pense que du coup le partenariat avec Revolve nous a vraiment permis de passer une étape justement en travaillant, comme je disais, sur toute cette architecture des données pour pouvoir vraiment traiter l'ensemble des données en utilisant notamment le cloud aussi. AWS pour vraiment les stocker et ensuite les restituer de façon, on va dire, vulgarisée derrière.
Oui, parce que, comme je l'évoquais aussi, ça peut paraître très contre-intuitif de dire qu'on est une ONG qui, du coup, étudie les écosystèmes qui sont relativement impactés par tout le changement climatique et la tech est aussi une partie du problème et peut être aussi utilisée comme une partie de la solution. Et ça, c'est important de le rappeler, c'est se dire que là, actuellement, vous utilisez donc la tech, entre grosses guillemets, parce qu'utiliser un ordinateur, c'est aussi utiliser de la tech.
Oui, bien sûr.
Mais bon, à une autre échelle. Et malgré tout, l'impact dans la façon dont vous l'utilisez essaye d'être le plus positif possible, de réduire les externalités au maximum. Pour cela, je sais qu'il y a des consultants qui sont mobilisés. Mais vous aussi, dans votre dynamique, dans votre pensée, dans votre approche de la technologie, il y a aussi toute cette pensée qui va être imprégnée, c'est-à-dire... être conscient des enjeux et faire en sorte que tout cela soit à menu en fait face aux écosystèmes. Et je trouve ça intéressant la démarche de pas non plus être complètement fermé, parce qu'au final je pense que ça permet quand même d'optimiser donc la collecte des images, la collecte des données, de le faire de façon plus proactive et justement d'avoir aussi toute cette partie sensibilisation et simplification de la donnée si on veut. Enfin...
Oui, je pense que c'est propre à la science aussi. Si on prend même des scientifiques aujourd'hui, on entend beaucoup parler des rapports du GIEC, des choses comme ça. C'est des scientifiques, on a besoin effectivement de technologies, de cartographie, de calculs, de données pour pouvoir étudier au plus proche l'impact du changement climatique et derrière pouvoir sensibiliser. Il y a une petite phrase très, très simpliste, connaître pour mieux préserver, pour mieux agir, mais qui est quand même forcément vrai. Donc on arrive, nous, on travaille sur la source en fait un petit peu de la connaissance qui va derrière permettre l'action. Mais on est aussi quand même très sensible à l'impact qu'on a et on essaie toujours de doser parce que, par exemple, les caméras trappes, ça aussi évite d'avoir un impact sur la faune et d'être présent dans le massif. Donc, c'est aussi utile dans ce sens.
Et est-ce que tu pourrais nous parler, par exemple, d'un projet qui a été réalisé au Créa Mont-Blanc? Et nous parler un peu justement de l'impact, quel a été le besoin, le contexte et comment du coup le projet s'est terminé.
Je parlerai peut-être du dernier projet parce qu'on vient effectivement là de faire une conférence, mais j'en ai déjà parlé sur justement ces deux espèces qui sont le lièvre variable et le lagopède alpin. Donc là, c'était un projet en partenariat avec des parcs aussi, les parcs nationaux du Mercantour, des Écrins, du Queyras, donc des parcs... dans les Alpes, donc un projet de suivi sur 3 ans. On étudiait là 2 espèces vulnérables, donc on a fait 3 ans de suivi pour suivre ces espèces, comment elles se déplacent, quels sont leurs rythmes. On fait des collectes de plumes, de crottes, on fait de la bioacoustique pour pouvoir suivre également leur déplacement avec aussi des GPS. Donc là, c'est vraiment l'objectif de... trouver comment ces espèces peuvent être impactées sur le changement climatique. On fait aussi de la modélisation avec de la cartographie pour voir à quel point leur habitat va se réduire à vision 2050 ou 2070, avec vraiment la volonté que derrière, justement, les parcs avec lesquels on travaille peuvent créer des zones de quiétude pour éviter que les personnes puissent se déplacer sur les lieux où elles sont présentes et notamment très sensibles aux dérangements.
Et donc, du coup, le besoin, il va venir, par exemple, des parcs ou des villes, où il vient généralement, le besoin vient à vous.
Oui, c'est un sort d'équilibre, en fait, un petit peu, dans quelle nécessité il y a là aujourd'hui. Hein. Nous, on a toute une réflexion sur la stratégie scientifique. Effectivement, on va pas travailler sur des choses qui sont déjà étudiées, donc on a ce besoin-là d'aller chercher un petit peu, pas forcément l'originalité, mais l'innovation et de répondre à certains besoins aussi, bien entendu, des collectivités et des enjeux d'aujourd'hui. C'est pour ça, par exemple, que là, sur nos futurs projets, qui ne sont pas encore tout à fait actés, donc je ne vais pas m'avancer encore plus, mais on réfléchit donc toujours à l'impact du changement climatique avec cette variable climat sur les différents milieux, mais aussi on ajoute aujourd'hui d'autres impacts, et notamment l'impact de l'homme, l'impact anthropique avec nos activités récréatives, parce qu'on se rend compte que c'est aussi des forts enjeux dans les années à venir sur la préservation de la montagne.
Et du coup, justement, t'en parlais sur le fait que vous faites aussi de la projection, c'est-à-dire que pas uniquement à l'instant T, mais aussi, bon, alors dans 10, 20 ans, qu'est-ce qui va se passer et comment on va pouvoir agir, déjà anticiper dès maintenant, comment on va pouvoir mettre en place des écosystèmes, peut-être, tu parlais des zones de quiétude, et je trouve ça intéressant de cet aspect-là, de se dire projection par rapport aux écosystèmes qu'on étudie.
Bah, là, oui, ça, on peut vraiment, ça, c'est possible grâce effectivement à tout ce travail de données, de statistiques. On l'a fait notamment sur l'Atlas du Mont-Blanc avec les températures, même si c'est pas notre cœur de métier, c'est vraiment d'étudier la biodiversité, mais avec les températures, on a pu faire... On a travaillé sur un beau projet qui s'appelait le rapport Adapt Mont-Blanc, avec beaucoup de partenaires sur le territoire du Mont-Blanc. C'est un projet transfrontalier, hein, c'est-à-dire avec Italie et Suisse, qui sont juste à côté de Chamonix, sur vraiment l'adaptation du territoire au changement climatique. Et nous, avec des indicateurs biodiversité qui étaient vraiment à destination des décideurs pour pouvoir prendre justement des mesures fortes pour s'adapter au changement climatique. Et ces façons de modéliser, c'est-à-dire on pouvait prévoir la température au sein du massif du Mont-Blanc dans 2050 avec l'enneigement. Donc on fait des modélisations, des graphiques, des designs, et là qui sont vraiment sources fortes pour les collectivités de pouvoir se saisir de ces informations.
Oui, parce que ça ne doit pas être joyeux.
Non, forcément, oui.
Et du coup aussi, je pense qu'une des forces du Créa Mont-Blanc, ça doit être le fait que tu l'as dit, ça fait 26 ans maintenant. Ouais. Donc je pense que vous avez pas mal de données et vous pouvez peut-être vous baser aussi à partir de, donc, de 26 dernières années pour voir l'évolution et de l'impact qu'a eu l'homme et le changement des dérèglements climatiques sur les écosystèmes. Est-ce que c'est vraiment flagrant? Est-ce que du coup, vous qui êtes hyper sensibilisé à ces sujets, est-ce que l'État, vous avez pu voir l'évolution ou la dégradation justement de ces environnements?
Oui, c'est sûr que c'est quand même assez fort. Alors déjà, pour la recherche, on parlait de temps long. C'est sûr que si on n'a que des données de quelques années, on ne pourra pas forcément s'en saisir. On a besoin vraiment d'avoir un vrai historique de données pour pouvoir faire des conclusions. C'est le principe de la recherche sérieuse, donc la recherche scientifique. Et effectivement, on voit déjà des impacts, sachant que en montagne, le changement climatique, il est déjà deux fois plus important qu'en plaine. Donc c'est très révélateur. Aujourd'hui, on parle beaucoup des glaciers. La glaciologie, que nous, on ne fait pas au CREA Mont-Blanc, mais qui est vraiment révélateur du changement climatique. Et nous, au CREA, on essaye aussi de montrer que cet impact a également... l'impact du changement climatique est également très fort sur la faune et sur la flore, avec, par exemple, en montagne, c'est la remontée de la forêt qui réduit considérablement d'autres habitats de prairies ou pelouses alpines. Donc nous, on essaie aussi de sensibiliser que cet impact va en avoir sur la faune aussi et la flore.
Et donc du coup, les rapports que vous produisez, par exemple aux décideurs et aux décideuses, permettent de mettre en place des actions concrètes sur ces écosystèmes.
Oui, bah oui, c'est l'objectif. Oui.
Donc avec, par exemple, est-ce que tu as un exemple en tête?
Là, pas directement. C'est vrai que le CREA Mont-Blanc, on est engagé, mais on n'est pas militant au sens terme, c'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à conseiller, entre guillemets, quoi faire. Mais le fait de pouvoir étudier et donner ces indications... sont derrière à disposition des collectivités, voire même de certains socioprofessionnels ou grand public.
Mmh, okay. Bah oui, parce que tu parlais justement de l'activité récréative. Ça, en l'occurrence, c'est tout à chacun. Donc je pense qu'effectivement, d'être sensibilisé à ces sujets, ou du moins être conscient que si on le fait, il y a un impact.
Bah, c'est déjà pour nous la première étape, c'est sûr. Et après, au fur et à mesure des études et des résultats qu'on pourrait produire, voir jusqu'où on pourrait aller.
Effectivement. Alors, une petite dernière question concernant du coup, est-ce que tu pourrais nous parler donc d'une ressource inspirante qui tourne autour du CREA Mont-Blanc?
Oui, je pense qu'au CREA Mont-Blanc, on est un peu les dignes héritiers des scientifiques pionniers du 19e siècle, notamment Joseph Vallot, qui est peut-être pas forcément le plus connu d'entre eux, mais qui est même pas forcément considéré comme un scientifique, mais qui était au 19e siècle au Mont-Blanc et qui a fait un peu des premières études, notamment botaniques, dans le massif, qui a fait des recherches et des actions assez extraordinaires pour l'époque, en restant plusieurs nuits quasiment au sommet du Mont-Blanc, et qui a notamment qui avait sa résidence à Chamonix, avec à côté un petit observatoire où il faisait ses études. Et nous, on est aujourd'hui toujours dans ce qu'on appelle Chalet Vallot, cet observatoire du Mont-Blanc. Donc on est assez attaché à ce personnage inspirant et qui était vraiment qui faisait beaucoup d'innovations pour l'époque, qui était vraiment précurseur et pionnier dans la recherche scientifique en montagne. On a donc ce Chalet Vallot, tout un projet de rénovation pour refaire nos bâtiments, notre laboratoire de recherche, et également transformer ce Chalet Vallot en un tiers-lieu scientifique, un lieu mixte d'écologie de montagne dans la vallée, pour qu'il soit ouvert à tous, à tous nos publics, c'est-à-dire aussi bien les décideurs que des entreprises partenaires, que des étudiants, pour des séminaires, des conférences. Donc c'est un beau projet dans ce Chalet Vallot où on essaie de continuer de faire vivre la recherche scientifique et l'écologie de montagne à Chamonix.
Eh bien, c'est un très bel hommage et un très beau mot de la fin, je pense. On mettra du coup toutes les ressources nécessaires dans la description, si jamais ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil sur le site du CREA Mont-Blanc ou même de participer directement avec Wild Mont-Blanc, c'est ça?
Voilà, Wild Mont-Blanc, oui.
Eh bien, parfait. Donc, on mettra ça en description. Et n'hésitez pas à aller vous renseigner si jamais vous faites un tour en Haute-Savoie. Que d'ici là, le Chalet Vallot sera ouvert à toutes et à tous. N'hésitez pas. Merci encore, Alice, d'avoir pris le temps de nous expliquer.
Et merci, puis,
du coup, on se dit à très bientôt sur les podcasts de Devoteam Revolve.